Marcelin disait, on ne peut pas le voir, on peut pas, mais on peut sentir sa présence. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, hein, ils ont senti qu'il se passait quelque chose. Après, ils ont vu les clous, mais d'abord, ils ont réagi, ils ont dit, on se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose. Amen. Et c'est vrai que quand Jésus est là, il se passe toujours quelque chose. Je le disais à nos frères et sœurs, eh bien, que nous avons visité à l'hôpital tout à l'heure. Quand le Jésus est là, il y a toujours quelque chose de bon qui se produit. Amen. Des fois, on dit, oh, c'est une petite réunion de semaine. Eh bien, excusez-moi, les bonnes réunions de semaine, moi, j'en ai vécu. Hein. Vous voyez les gens à genoux, pleurant, les réconciliations, au sein de même famille. Gloire à Dieu! Moi, je dis, Seigneur, je fais rien. Et là, il ne faut pas mettre sa main, il faut laisser faire le Seigneur. Parce que c'est lui qui intervient, c'est lui qui agit. Et c'est tellement mieux. Hein, quand c'est l'humain. Mais quand c'est Dieu, quand ça vient de là-haut. Alléluia. Hein. On va ouvrir ensemble l'évangile de Luc. Après, on aura le temps de prier. Hein, nous prierons pour nos frères et sœurs. Nous prierons également pour le congrès. Nous prierons pour les besoins. Et peut-être aussi, vous êtes venus avec des besoins. Nous prierons pour vous. Vous lèverez la main. Hein. Voilà. Dans Luc, chapitre 9, verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après, qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Amen, il est bon ce soir que nous soyons ici, nous aussi. Hein? Ah, voilà. Il dit, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le texte rajoute, il ne savait ce qu'il disait. Vous voyez? Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Parce qu'ils devaient se dire, on va nous prendre pour des... comprenez ? Des illuminés. Moi, j'aime bien hein, quand on me dit, t'es illuminé. On va parler de la lumière de Christ. Amen. Alors, le royaume de Dieu, il est présentement invisible, et t'as raison. J'ai dit, il introduit mon message, c'est bien. Hein? L'apôtre Paul dit que c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ici-bas, c'est déjà ça. Hein? La paix, la justice, la joie, hein, le bonheur d'avoir trouvé Jésus. Mais ce sera aussi, je dirais, c'est même un royaume à venir. Et celui-ci sera visible. Il sera instauré à la deuxième venue de Jésus. Quand Jésus dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. » Alors ces paroles, bien sûr, sont à mettre en relation avec ce qu'on appelle la transfiguration. Il parle de 3 disciples qui vont monter avec lui sur une montagne, littéralement. Eh bien, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Ils vont voir la gloire du royaume de Dieu. Alléluia. Environ 8 jours après, qui lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, ou dans le désordre, hein, Jean et Jacques, comme vous voulez. Et il monte sur la montagne, il nous a dit, pour prier. Alors, ce soir, on est venu pour prier, est-ce qu'on s'attend vraiment à voir la gloire de Dieu? Je pense que Jacques, Pierre et Jean, ils ne devaient pas s'attendre à voir ce qu'ils ont vu. Vous savez, c'est toujours étonnant quand on est dans la présence de Dieu. quand on se rassemble sous son regard. Il y a toujours, comme je le disais en entrée, en introduction, il se passe toujours quelque chose. Alors, est-ce que vous avez une idée de la gloire de Jésus? Allez, faites tourner ça. Hein, tac, tac. Certains pensent que c'est sur le mont Tabor, un mont qui est à 575 mètres de hauteur, qu'a eu lieu la transfiguration. On y va rarement dans les voyages en Israël. Et pourtant, moi, j'y suis allé. Et pour y être montré, j'ai vu que la route n'était pas facile, elle était très sinueuse. D'ailleurs, il était impossible qu'un bus puisse y monter sur cette montagne. Il y a à peu près 10 minutes de parcours, on le fait en taxi. Les taxis sont en bas, ils vous prennent en bas de la route et ils vous montent jusque donc sur le mont Tabor. Voilà. Alors certains de ces chauffeurs le font depuis très très longtemps. Il y en a un qui m'a dit, ça fait 30 ans que je le fais. Et il le faisait en disant, en se tournant vers moi, c'est une route sinueuse. Hein, vous avez des lacets comme ça et vous risquez de vous retrouver dessous. Et en me parlant, il me dit, ça fait 30 ans que je fais ce chemin, je le connais par cœur. Hey, regarde la route! Oui, on sait où on est, avec qui on est, hein. On est avec le Seigneur, mais néanmoins, il faut quand même regarder la route, hein. Eh oui. Ah, il vous parle tout le temps, en train de tourner la tête, il rend même pas la route, quoi, hein. Il sait qu'il va tourner. Voilà. Alors, merci qu'il nous ait gardés, hein. Alors qu'ils prient, hein, ils sont là, Jésus est transfiguré. Le mot grec est métamorphoo. Ce mot donne en français tout simplement métamorphose. Eh oui. Quand une chenille se transforme et qu'elle devient papillon, eh bien, c'est la métamorphose qui s'est opérée. De chenille, un peu abjecte, vous savez, on n'a pas trop envie de... Ah ! D'ailleurs, il faut faire attention aux chenilles processionnaires. Hein. Eh oui, mais c'est pas très beau. Mais après, c'est magnifique, un papillon. Quand il déploie ses... Vous n'avez pas très longtemps, un papillon. Hein. Mais quand il déploie ses ailes... C'est quelque chose d'extraordinaire, les couleurs, et puis la façon dont c'est fait. Alors, d'un aspect originaire, je dirais humain, ordinaire, Jésus a été métamorphosé. Je dirais là, parce qu'il y avait quelque chose qui était marquant, en un être de lumière, il y avait comme des rayons lumineux qui émanaient de son corps. Et nos trois apôtres, eh bien, ils devaient se demander si leurs yeux ne les trompaient pas. Et ils ont dit qu'ils avaient résisté contre le sommeil. Peut-être qu'ils devaient se dire, mais finalement, je suis en train de faire un rêve, là, pas possible. Eh oui. Et pourtant, c'est la réalité. Et vous savez, c'est un événement très important dans la vie de Jésus. Parce qu'il confirme quelque chose à laquelle nous pensons pas. C'est que Jésus, tout en étant homme, il n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme extraordinaire. Alléluia. C'était Dieu venu en chair. C'est-à-dire que Dieu était au milieu de, comme ce soir, il est au milieu de nous. Vous le réalisez? Jésus est au milieu de nous. Pendant 33 ans, sa chair humaine, c'est comme si elle voilait ou elle masquait un petit peu de sa divinité. Parce que même s'il était pleinement homme, il était aussi pleinement Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Faire marcher le paralytique. Multiplier des pains, faire manger des foules. Avec des poissons, bien sûr, hein, il faut agrémenter un peu. Mais vous voyez un petit peu la puissance qu'il y avait en lui. Non, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme extraordinaire. Mais à ce moment-là, sa vraie nature divine, elle transparaissait. Vous voyez, il y avait quelque chose qui émanait de lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux, j'ai pris dans la version français courant, Hébreux chapitre 1, verset 13, il nous dit que le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. C'est pas extraordinaire? J'ai préféré ce texte, hein, il est magnifique comme ça dans la parole en français courant. Hein. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Alléluia. C'est pas extraordinaire? Moi, j'ai beau dire des mots et j'arrive pas à soutenir, hein. Mais lui, il soutient l'univers tout entier. Vous savez, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait tout compris, ce chef romain, hein, cet officier romain. Dis seulement un mot. Ne viens pas, ne te donne pas la peine, mais un mot, je crois que c'est suffisant. Et c'est vrai qu'un mot de Jésus, mes amis, mais c'est extraordinaire. Alléluia. Je le veux, sois pur, hop, entends, hop, Le souffle est passé, la vie est passée, et redonner vie à cette oreille, à cette langue. Hein ? Moi, j'ai vu, j'ai été témoin de personnes qui ne parlaient plus et qui, eh bien, suite au message de la parole de Dieu, quand on a commencé à prier pour ces personnes-là, eh bien, le lendemain, elles sont venues rendre témoignage, je parle. Une enfant qui n'entendait pas, ça se passe en Normandie, eh bien, deux, trois réunions, tac, elle est à l'écoute. La maman a été assoiffée de vérité. Elle venait de me demander justement si j'étais prêt à l'époque, j'étais à Briançon, si je connaissais l'école de langage des signes sur Grenoble. J'ai dit que non, je ne connaissais pas. Eh bien, deux jours après, elle vient me dire « c'est bon pour l'école, hein, ma fille entend. » Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Jésus. Un théologien a écrit dans son commentaire sur la propos de ce texte-là, il dit « pendant un bref instant, le voile de l'humanité de Jésus s'est soulevé et a permis à son essence véritable de transparaître. La gloire qui existait toujours, elle était toujours là, dans les profondeurs de son être, est remontée à la surface pour cette seule fois durant sa vie terrestre. Ou, pour le dire autrement, dit-il, il est remonté dans le temps éternel au moment de sa gloire préhumaine. Il était au commencement de la création. Hein. Et tout a été créé par sa parole. C'était un coup d'œil dans le passé et une vue de sa gloire future. Vous vous rendez compte qu'un jour on sera et on n'aura plus besoin de lumière. On sera en présence de la lumière véritable. Amen. Le mot gloire porte en lui l'idée de rayonnement lumineux. Quand les anges ont visité les bergers dans les champs de Bethléem, il est écrit ceci. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Non, ne cherche pas, Elisabeth. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur. Eh oui, c'est beau. Mais c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. La lumière brillante est associée à la nature de Dieu. Dieu est lumière ou pas ? Mais Dieu est lumière, bien sûr. Hein. Alors, voulez-vous voir Jésus ? Ce n'est pas un piège. Est-ce que vous n'avez pas envie de voir Jésus ? Jésus agir. Jésus, quelque part, vous témoigner de l'affection. Il peut le faire. Eh oui. Et dans les moments les plus terribles, savoir que sa présence est là, elle est tellement, tellement rassurante. C'est extraordinaire, mais c'est la présence de Jésus. C'est quand Jésus est à l'œuvre. Amen. Alors aujourd'hui, ce n'est pas avec nos yeux de chair qu'il faut chercher à voir Jésus. Nous courons, si nous faisons ainsi, le risque de nous faire une image taillée, une idole. Eh oui. Or, vous savez que la parole de Dieu, eh bien, elle interdit formellement, hein, il y a un commandement, hein, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans le ciel, sous la terre et sur la terre. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemble Jésus, eh bien, il suffit d'écouter un petit peu la description que donne Jean dans l'Apocalypse. Vous savez qu'il est là, il a été bien refoulé sur cette île. Il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Impressionnant, hein ? Vous rappelez que les Israélites, à un moment donné, vont dire à Moïse, va et parle-nous, pas Dieu. Parce qu'il tremblait. D'abord, la montagne était en train de trembler, elle rugissait. C'était la présence de Dieu. Heureusement que Dieu ne nous apparaît pas comme cela. D'abord, la sainteté de Dieu nous écraserait tous. Il n'y aurait plus de vie ici-bas. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Dieu a pris forme humaine pour venir jusqu'à nous. Sinon, personne ne pourrait vivre. Alors, je reviens à ce que je viens de lire là avec vous, de l'épître de Jean. Cette description, l'évangile de Jean, pardon, elle ressemble à celle de la transfiguration. Eh oui. Dans Exode 33, Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. Et Dieu lui répond qu'un homme ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Donc, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est, ça confirme ce que je vous disais. Si on contemplait la gloire de Dieu, ne serait-ce qu'un instant, bien nous serions frappés d'aveuglement. Et oui. Quand Saul de Tarse a simplement un aperçu de Jésus. Vous savez, quand il est sur le chemin de Damas, il va arrêter les premiers croyants, ceux qui s'étaient attachés à Jésus, qui a vu la révélation de l'amour de Dieu au travers de ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a perdu la vue. 3 jours après, Dieu va lui rendre la vue, mais il lui a montré quand même quelque chose de spectaculaire et d'extraordinaire. C'est qu'il n'était pas grand-chose. Vous voyez? Également, il va lui dire, je l'ai choisi. C'est lui qui va porter mon nom. C'est lui qui va annoncer tout simplement qui je suis. Et une chose est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Amen. Quand nous avons cette révélation, eh bien, nous ne pouvons plus douter. Il est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. C'est pas un petit Dieu. C'est le grand Dieu. Il est fils de Dieu. Donc, il est d'origine et d'essence divine. Amen. Vous aimez quand on vous dit, ah, c'est ton fils, il te ressemble, hein? Eh bien, c'est la même chose. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Il est comme le Père. Alors, qui sont ces visiteurs de l'au-delà? Il y a 2 visiteurs qui apparaissent sur la montagne avec Jésus. L'identité de l'un est Moïse. On a entendu parler de Moïse. Hein? L'autre, c'est Élie. Et nous avons ici la preuve que, quelque part, nous garderons notre identité dans le ciel. Eh oui. Pourquoi Moïse et Élie? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Abraham. Quand même extraordinaire, Abraham. Hein? David. Le roi David. Noé. Ah oui, quand même, c'était un des 8 survivants de notre époque, bien sûr. Hein. Salomon, Daniel, il y en a tant d'autres. Hein. Eh bien, pourquoi Moïse et Élie? Parce que Moïse, lui, représente la loi. Élie représente, lui, les prophètes. Et le verset 31 dit que Jésus, Moïse et Élie parlaient. Ils parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils parlaient ni plus ni moins de la mort prochaine de Jésus. Vous voyez un petit peu? Et c'est ce que signifie le mot départ, là. Hein? Paul lui-même, présentant sa mort prochaine, va dire ceci, « L'heure de mon départ approche !» Eh oui, départ veut dire qu'on est en marche vers quelque part. Et nous savons que quand le souffle de vie nous est retiré, ou coupé, ou rompu, eh bien, nous allons nous reposer. En tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous avons accompli tout ce que Dieu avait prévu que nous accomplissions. Maintenant, il dit, allez, viens te reposer, bon et fidèle serviteur. Amen. Alors, Moïse et Élie sont uniques. Je dirais uniques à cause de la façon dont ils ont quitté ce monde. Deutéronome 34, pas 35, hein, 34. Verset 1er, puis verset 4 à 6. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Au verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Verset 6. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Élie, lui, c'est différent. Je parle du prophète, hein, Élie. Il n'a pas connu la mort. Certains disent, je pourrais vivre ça. Hein. Mais quelque part, Dieu a fait un choix. Élie, prophète, amen, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il a été enlevé dans un chariot de feu. Il est monté au ciel dans un tourbillon. Vous regarderez ça dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2 et les versets de 1 à 12. Ainsi, de ces deux hommes, il y en a un qui est mort. L'autre qui n'a pas connu la mort. Et nous avons là deux catégories de personnes que Jésus amènera au ciel lors de l'enlèvement. Amen. Moïse préfigure ceux qui sont morts, enterrés et qui ressusciteront. Alléluia. Et nous devancerons si nous sommes encore vivants lors de l'avènement du Seigneur. La Bible dit que lors du retour de Jésus, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Moïse, quelque part, est le représentant de tous ceux qui sont morts dans la foi au message du salut, au message de la vie. Amen. Au moment de sa mort, qu'est-ce qui se passe? Le croyant, son âme, son esprit, eh bien, vont retourner vers le Créateur. C'est-à-dire qu'on retourne au ciel avec le Seigneur. Et Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8, je ne sais pas si je te l'ai donné, il dit « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quand même, préférer la mort que de rester dans ce corps. Comment ça va chez vous? Le matin, pas de problème? Vous vous levez une fraction de seconde? Il n'y a pas un « aïe » Ce corps, il vieillit. Hein? Hein, Mireille? Je l'ai en face de moi, c'est pour ça. Mais c'est vrai que notre corps, il vieillit. Et quelque part, le Seigneur va le renouveler complètement. Mais en attendant, eh bien, il va goûter à un peu de repos. Il va donc, eh bien, mourir. De même que Moïse fut reconnu également, eh bien, nous nous reconnaîtrons. Ah, Marie-Paul, on a tellement vécu de choses ensemble. Mais oui, c'est comme ça. Hein. Eh oui, on va revêtir à ce moment-là notre corps de résurrection. Alléluia. Mais on se reconnaîtra. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Mais on se reconnaîtra. Alléluia. Alors, Élie, lui, préfigure ceux qui ne connaîtront pas la mort. Ils seront vivants lors de l'avènement du Seigneur, dans l'avènement de l'Église. Ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus, ils ne mourront pas, ils seront enlevés, comme Élie, qui n'est pas mort, mais qui a été enlevé dans le ciel, lui, dans un chariot de feu. Voilà ce qui va arriver, lors du retour de Jésus. 1 Corinthiens 15, là je t'ai donné, versets 51-52, voici, je vous dis un mystère. C'est bien quand le Seigneur il dit, je vous dis un mystère, c'est-à-dire je vous révèle quelque chose. Allez, je vous mets en lumière ce que vous avez besoin maintenant de comprendre. Hein. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de aïe, mes douleurs, hein, incorruptibles, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus se corrompre, amen, ni se détruire. Et nous, nous serons changés. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que si nous, on est vivants, lors de l'avènement du Seigneur, du retour de Jésus, dans l'avènement de l'Église, ceux qui nous ont devancés, eh bien, ils vont ressusciter premièrement. Ils seront devant. Amen. Verset 17. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez pourquoi il est important de persévérer, d'aller jusqu'au bout. de ne pas se laisser abattre ni arrêter lorsque c'est difficile, lorsque le chemin est de plus en plus pentueux, lorsqu'il est encombré par tellement de choses. Non, je te fais confiance, Seigneur. Si je ne peux plus marcher, tu vas me porter. Tu vas m'aider à avancer. Avec toi, je vais marcher en vainqueur et je vais vaincre. Amen. Ainsi, la transfiguration de Jésus, c'est une transfiguration du royaume qui vient et qui va paraître quand Jésus va revenir. Alléluia. Alors, après la vision de Jésus et des visiteurs de l'au-delà, il y a un troisième événement ou élément. La voix. Hein? Est-ce que nous savons écouter la voix de Jésus? Est-ce que nous savons écouter le Saint-Esprit? Est-ce que nous savons écouter le message de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes, de ceux qui sont attentifs et qui ne laissent tomber mais aucune miette? Vous savez que la miette qui va tomber, si on la laisse tomber, c'est celle qui va nous manquer. Et ce serait dommage, croyez pas? Alors, je reviens à l'événement. La transfiguration, la lumière qui est là, etc. Pierre, comme à l'habitude, il croit qu'il doit dire quelque chose. Hein? Et oui. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est-à-dire qu'il met au même rang Moïse, Élie, que Jésus. Vous vous rendez compte? Eh oui. Alors comme ça, les gens allaient pouvoir venir consulter aussi bien Moïse, Élie que Jésus, quoi. Vous comprenez? Eh oui. Eh, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et le texte le précise bien, il ne savait ce qu'il disait. Soyons prudents avec nos paroles, avec nos réactions. Soyons prudents. C'est bien plus haut que ce que nos pensées peuvent concevoir, ces choses-là. Alors, il n'a pas fini de prononcer ces paroles que la voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. C'est-à-dire que Dieu qui est en train de parler, là, il ne dit pas « Écoutez-les, là, les trois. » Les trois, qui c'est? Jésus, Moïse et Élie. Non, il dit « Écoutez-le, là, Jésus. » C'est lui qu'il faut écouter. C'est mon fils. Et c'est lui que nous avons besoin d'écouter ou d'apprendre à écouter. C'est lui, hein? D'ailleurs, plus tard, marqué par cette expérience sur la montagne, Pierre va écrire ceci, 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous n'y étions. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alors il s'agit ici d'écouter pour obéir. Amen. Parce que c'est ce que dit le Seigneur, hein? Eh oui. C'est mon fils, mon élu. C'est lui. C'est lui le sauveur. C'est lui le rédempteur. C'est lui qui va payer sur le bois de la croix pour que vous puissiez vivre. C'est lui qu'il faut écouter. Amen. C'est lui qu'il faut écouter. Il n'y a pas une autre personne qui a dit ceci? Faites ce qu'il vous dira. Qui ça? J'étais à Abidjan. Il y a la capitale, la cathédrale d'Abidjan. Et j'ai été étonné quand j'ai vu ce que j'ai vu. À l'entrée de la cathédrale, il y a sur le ponton, comme ça, là au-dessus, écrit « Faites ce qu'il vous dira. » Signé Marie. Ben oui, c'est ce que Marie a dit. Et c'est dommage. C'est dommage que les hommes n'écoutent pas. Parce que Marie, elle a dit quelque chose de grand, d'important quelque part, elle nous a donné un exemple. Il faut l'écouter, lui. Il faut l'écouter. Amen. Alors, écouter pour obéir. Et quand Dieu a appelé, par exemple, le petit Samuel, qu'est-ce qu'il a fait, le petit Samuel ? Au début, il n'a pas compris parce qu'il ne connaissait pas. Eh, il faut bien débuter dans la vie spirituelle. Hein. Moi, c'est pareil. Au début, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Je regardais, je disais, mais c'est extraordinaire, c'est beau. On m'a dit, on va percer la bulle pour que tu arrêtes de vivre comme ça. Parce qu'il faut que tu aies un peu les pieds sur terre. Bon, j'avais les pieds sur terre, mais c'était tellement magnifique. Moi, j'étais comme dans un rêve. Dieu me connaissait depuis tout petit, il savait tout ce que j'avais fait. Et il m'en tenait par rigueur, il me pardonnait, il m'a transformé, il m'a donné de l'amour pour ceux que je n'aimais pas. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Et qu'est-ce qui se passe avec le petit Samuel quand il a compris ? Parce que Élie va lui dire, cette fois-ci, ce n'est pas le prophète. Hein. Il va lui dire, écoute, que tu vas entendre cette voix de nouveau. Tu vas dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et à partir de là, il va comprendre. Parle, Seigneur, je suis à ton écoute. Est-ce que vous agissez comme cela ? Parfois, on se trouve dans des situations où on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais néanmoins, on veut toujours, quelque part, essayer par nous-mêmes de comprendre, d'y arriver. Au début, je faisais comme cela, comme on l'a tous fait, bien sûr. Hein. Et puis, j'ai appris à me poser. J'ai appris à me poser. Vous savez, quand vous avez planifié votre journée, et puis qu'au fur et à mesure, vos rendez-vous tombent à l'eau. Eh bien, j'ai appris à... Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ? Allez, je me tiens devant toi et j'attends. J'attends, parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi, alors que ma journée était bien planifiée, j'avais tel rendez-vous, tel entretien, etc. Dis-moi pourquoi. Et ça ne tardait pas, hein? Toc, toc, toc. Pasteur, faut que je vous voie, c'est urgent. Il y en a pas. Et vous recevez un grand gaillard, une montagne de muscles, vous le recevez, les larmes aux yeux, en train de pleurer, parce qu'il lui arrive un coup dur. Il ne sait plus comment s'en sortir. Ça, c'est des rendez-vous que Dieu prévoit. Mais si on n'est pas à l'écoute, ok, mais je vais faire autre chose. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Je vais pêcher. Hein, ils sont sur la plage, tous là. Ils sont en train de réfléchir à ce qui s'était passé. Jésus a été crucifié. On a dit qu'il était vivant, hein, qu'il était ressuscité. Mais nous, on ne l'a pas vu, etc., 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 etc. Et Pierre, il dit à ce moment-là, bon, moi, je vais pêcher. C'est-à-dire qu'il retourne à sa vieille nature, à son ancienne nature, à son ancien métier. Et là, quand il est en train de tirer le filet, il aperçoit sur la plage, j'allais dire le restaurateur. Ouais, c'est lui le restaurateur des brèches. Hein. N'empêche, c'est lui. Hein. Il est en train de faire griller du poisson. Alors eux, ils ont 153 gros. Vous savez, c'est précis dans la parole de Dieu. Hein. 153 gros poissons dans le filet. Mais Pierre, il ne s'en occupe plus. Ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est celui qui est sur la plage. Vous voyez, il se rhabille vite, quelque part, il montre un petit peu que, eh bien, il avait commencé à dégraisser ou à régresser. Et puis, eh bien, il comprend que c'est dans la présence de Jésus qu'il va trouver toutes ses réponses. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus vous a parlé ce soir ? Je recommence à zéro ? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on a besoin, nous, eh bien, d'être à son écoute, d'y prendre garde et de faire en sorte eh bien, qu'il en sorte quelque chose de beau, qu'il en sorte tout simplement la volonté de notre Seigneur. Amen. On va ensemble avoir un moment de prière. Je vous donne quelques sujets.